L'année 2024 passera à l'histoire pour l'industrie acéricole du Nouveau-Brunswick. On en discute aujourd'hui avec son président, Frédéric Dion, que nous retrouvons via le téléphone. Monsieur Dion, bon début de semaine et merci de prendre le temps de commenter aujourd'hui.
Merci Yannick, bonne année à vous et aux auditeurs.
À vous aussi, merci. Selon les données de Statistique Canada, 1 million de gallons de sirop d'érable a été produit au cours de la dernière année. Monsieur Dion, première question, quelles ont été vos premières réactions, vos premiers états d'âme suite à la publication de ces chiffres? J'imagine qu'on est heureux du résultat et surtout du travail accompli.
On parle de 1,2 million de gallons de sirop. Comparativement à l'année d'avant, l'année précédente, c'est plus de 700 000 gallons supplémentaires. Parce que ça a été une très mauvaise année, là. Mais par rapport à l'année de référence, qui était l'année record, là, on parle quand même de 400 000 gallons de plus que la meilleure des années qu'il y avait jamais eu. Donc, c'était quelque chose d'inespéré, là. On s'attendait à une année assez bonne, en fait, même peut-être exceptionnelle. Mais là, c'est au-delà des attentes. Là, on est passé de la meilleure année qui était de 820 000 de mémoire en 2022 à 1,2 million. Donc, c'est vraiment là quelque chose d'inespéré. Donc.
On parle quand même de revenus très importants, si mes chiffres sont bons. 33 millions de dollars la saison dernière, 52 millions de dollars cette année en profit. On voit donc une belle progression. Et j'imagine que ce n'est pas à négliger pour le futur de l'industrie. Elle est présentement en santé, n'est-ce pas?
Oui, en fait, c'est une industrie qui est en pleine croissance là, dans notre province. Depuis une vingtaine d'années, on a connu là justement là une évolution somme toute assez importante. Et c'est intimement lié à l'allocation d'hectares supplémentaires là, pour l'exploitation sur les terres de la Couronne parce que la ressource, elle se trouve sur ces territoires, donc on n'y échappe pas. Et avec les allocations qui ont été allouées au début des années 2000, ensuite en 2014 avec le gouvernement Allward à la fin de son mandat, on a réussi ici là, à accroître considérablement les superficies exploitées. Et on se retrouve aujourd'hui avec une industrie, comme vous le mentionnez, qui est en forte croissance, qui est en train de prendre une place importante là, dans l'économie de nos régions. Donc, on sait qu'il y a des secteurs là, dans le nord-ouest de la province là, où en fait, là, qui sont dépendantes de plus en plus de cette économie-là. On crée des centaines d'emplois, plus de 600 emplois là, à l'équivalent à temps plein au Nouveau-Brunswick, des retombées économiques de plusieurs millions de dollars. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est bien, qui est intéressant et il faut continuer dans cette direction-là.
Une petite parenthèse, et vous mentionnez le nord-ouest de la province, c'est une des forces de la province de ce côté-là. Qu'en est-il du nord-est du Nouveau-Brunswick, la région de chaleur et la péninsule acadienne? Comment on voit ces chiffres?
On a également une industrie qui est quand même là, importante pour nos régions. Dans la péninsule acadienne, on a beaucoup de petites érablières. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui en tirent un revenu d'appoint. Il y a quand même beaucoup d'entailles, si on en regarde dans la péninsule acadienne, même aussi dans la région chaleur, là, on a plusieurs petites érablières. Certains le font pour un AB, mais quand même réussissent à tirer un revenu d'appoint avec cette activité-là. C'est quelque chose qui est en développement. Moi, je suis moi-même copropriétaire d'une érablière. Donc, oui. Il y a des gens qui font de plus en plus de transformations. On sait qu'il y a la sucrerie Chicasson là, dans la péninsule acadienne, paquet de villes, qui font de leur côté là, tous les aspects, je veux dire, autour de cette industrie-là, de la récolte à la transformation, à la vente de produits, à la cabane à sucre aussi, là, que c'est possible d'aller là, à tous les samedis, les dimanches. Donc, c'est vraiment une industrie, comme je le répète, qui est à différents degrés, là, somme toute importante. Puis dans le nord-est, ben oui, c'est une industrie qui est quand même en croissance.
Il faut donner crédit, évidemment, aux cultivateurs, mais aussi, c'est un peu étrange à dire, mais à Dame Nature. La température a été propice. Vous avez pu lancer votre saison bien plus tôt qu'à l'habitude. Et ça, c'est tout en votre avantage, là.
On y échappe pas, là. Je veux dire, on est intimement dépendant de la température, parce qu'on tombe, quand on parle des érablières, on tombe de ce qui est considéré de l'agriculture, si on peut le dire. Ouais. Donc, les aléas là, de la météo vont définir un peu le type de saison qu'on va avoir. Et l'année dernière, ben, ce fut une saison exceptionnelle en raison, comme vous l'avez mentionné, d'un début hâtif. Mais après ça, ça s'est continué là, sur une longue période. Là. Donc, on a eu un 5-6 semaines de bonne coulée où les températures étaient vraiment idéales, où on n'a pas été dans les extrêmes. Là. Ce qui est vraiment à éviter, si on peut dire, là, pour Dame Nature, c'est de nous envoyer des températures qui vont aller au-dessus du 0 degré, qui vont être trop chaudes, trop rapidement. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut éviter. L'année passée, c'est ça qui ne s'est pas produit. Donc, on a vraiment eu un printemps qui s'est déroulé normalement, si je peux dire. Ça nous a permis là, de connaître la saison qu'on a connue. Mais vous l'avez mentionné aussi, il faut pas négliger tout l'aspect d'investissement qui sont faits par les producteurs pour améliorer l'efficacité de leur production. Donc, les agriculteurs, là, c'est devenu, là, dans certains cas, vous rentrez dans une érablière, c'est hautement technologique. Là. Donc, il y a vraiment une technologie de fine pointe qui est maintenant disponible pour justement tirer le maximum puis éviter des pertes là, pour être capable de maximiser les investissements qui ont été faits et maximiser les retombées économiques d'industrie agricole.
Par curiosité, M. Dion, est-ce que les changements climatiques dus au fait qu'il y a moins de neige, que nous avons des hivers différents, ont un impact sur la récolte? Comment on doit gérer cette situation face aux changements climatiques? J'imagine qu'il y a eu une certaine adaptation derrière tout ça. Là.
Ben écoutez, je vous dirais, sur ce côté-là, il est quand même tôt pour évaluer ce que ça implique, ce que ça veut dire. T'sais, je pense qu'on est conscient qu'on a des hivers un peu plus doux.
Oui.
Mais pour nous, ce que ça veut dire, on ne peut pas encore évaluer vraiment ce que ça va produire. Donc, on le voit, c'est sûr, sur le terrain. L'année passée, on a comme débuté une saison où on avait très peu de neige au sol et on a fini la saison. Les températures étaient plus chaudes, mais dans certains cas, il y avait plus de neige au sol dans certains coins qu'il n'avait au début de la saison. Parce qu'il y a eu des grosses tempêtes dans le mois de mars et au début avril, ce qui est particulier, mais somme toute, on peut difficilement évaluer. Il va falloir regarder les tendances à long terme pour voir ce que ça veut dire. On sait que dans les régions, par exemple, du nord-est des États-Unis, où il y a très peu de neige, où on a des températures plus clémentes qu'ici, ben ils font quand même du sirop d'érable. Le rendement est peut-être un peu moindre, mais somme toute, c'est quand même possible. Donc, est-ce que nous, ça va devenir notre réalité, la réalité qu'on connaît dans ces régions-là va devenir la nôtre dans 20, 30, 40 ans, on ne sait pas. Mais je pense qu'on va encore faire du sirop d'érable pendant longtemps. Ce qu'il faut peut-être regarder, c'est justement le fait que dans l'hiver, on va avoir des événements extrêmes, par exemple du verglas. Ben là, ça va devenir problématique si on a des épisodes où, au lieu d'avoir une tempête de neige, on a une tempête de vent avec bon la pluie puis du verglas. Ben ça crée des dommages dans les érablières. Ça entraîne d'autres problèmes, d'autres dépenses supplémentaires, d'autres coûts et des diminutions de production. Mais à nouveau, là, c'est quand même trop tôt. Il faut regarder les tendances là, pour voir qu'est-ce que ça va impliquer pour nous.
En terminant, M. Dion, on s'était parlé il y a quelques mois et vous aviez avancé que vous souhaitiez une meilleure collaboration du gouvernement provincial quant à un meilleur accès aux terres de la Couronne. Entre-temps, le gouvernement de Blaine Higgs a cédé sa place à celui de Susan Holt. Comment voyez-vous les prochaines années avec un différent gouvernement? Comment entrevoyez-vous cette nouvelle collaboration?
Ben écoutez, je pense que c'est connu qu'on a eu une première rencontre difficile avec le nouveau ministre des Ressources naturelles, John Aron. Ça a eu lieu à la mi-décembre, donc le ministre Aron a renié même des engagements pris par le parti, donc on est vraiment plus que déçus, on est stupéfaits et fâchés de cette façon de faire-là. Mais on désespère pas, je pense qu'on va quand même revenir à la charge, on va travailler avec le gouvernement en place. Il y a des députés dans nos régions pour qui cette industrie-là est importante et on va s'assurer de leur expliquer en détail ce que ça implique, ce que ça veut dire, les possibilités de croissance encore de notre industrie. On a un gouvernement qui est là, avec qui on va travailler, puis on ne perd pas espoir. On va certainement réussir à faire des gains pour continuer sur la lancée sur laquelle on est là depuis quelques années.
C'est à surveiller au cours des prochains mois. Frédéric Dion, président de l'industrie acérigole du Nouveau-Brunswick. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite une bonne saison 2025. Toujours au plaisir d'avoir l'occasion de se reparler.
Merci Yannick, au plaisir.